Jeanne et Mégane sont à distance ce matin. Mégane est... je vais commencer par une question. Vous avez droit à un mot. Un mot. Donc, si je vous demande de quoi je vais parler ce matin, quel est le thème de mon message? Je vais être fiévreuse, donc... c'est pour ça que vous avez seulement Arnaud et moi ce matin. Donc, ça fait partie de la réalité avec des enfants qui vont à l'école. Puis, ça nous arrive à nous aussi d'être malades. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 5. On va regarder les versets 8 à 14 ce matin. En tant que vous tournez, là, je sais que vous avez une invitation que je lance. Je sais qu'il va y avoir un petit conflit d'horaire, mais le 15, vous avez votre dîner de Noël. Je regarde Sébastien parce que ça va peut-être l'intéresser. En fin d'après-midi, donc à 16h30 que ça débute, on a notre soirée du temps des fêtes. Mais c'est quand même très orienté pour les enfants. Donc, si ça vous intéresse, c'est un théâtre... de marionnettes qu'on fait donc pour avec le thème de Noël. Donc, c'est l'évangile. On va présenter l'Évangile. Évidemment, c'est pour les petits et les grands, mais les enfants, ils peuvent être... Considérez-vous les bienvenus, ça vous tente de venir. Ça ferait une grosse journée, mais des fois, avec l'énergie, vous seriez les bienvenus. Donc, on va faire la lecture du texte dans Éphésiens 5, les versets 8 à 14. Une belle épître, la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. On va... Petit problème à changer. OK, allons-y. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Un mot. Lumière. Lumière. Pourquoi tu dis ça? Parce que le mot lumière revient souvent. Là, on le voit, là, 1, 2, 3, 4, 5, puis le dernier mot éclairera. Donc oui, effectivement, on va parler de lumière ce matin. On va parler de lumière parce que le texte parle de lumière. Si on parle de lumière, on parle souvent, quand on parle de lumière, on parle en contraste avec quelque chose, avec... En contraste, pardon, avec les ténèbres. Donc, le mot ténèbres apparaît deux fois aussi. Donc, ce matin, on va voir un contraste entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que c'est un sujet, lumière et ténèbres, qui est courant ou qui est unique? Est-ce que on voit ça de temps en temps dans la parole de Dieu? La lumière, l'idée de la lumière, l'idée des ténèbres. Oui, vous êtes d'accord, on le voit quand même beaucoup. Quand est-ce qu'on voit ça en premier? Où est-ce qu'on commence à voir ce thème-là? Dans la Genèse. D'un endroit particulier de la Genèse. Au tout début de la parole de Dieu. Tout début, on a ce contraste-là qui est mentionné. Genèse 1, les versets 1 à 2, donc. Le début de la parole de Dieu, ça nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, au début de la création, la terre était informe et vide. Tohu-bohu, c'était le désordre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait Dieu créé les cieux et la terre. La terre est en désordre, c'est informe et vide. Puis, il y a les ténèbres. Qu'est-ce que Dieu fait par la suite? Versets 3 et 4, il dit « Que la lumière soit et la lumière fut. » Donc, Dieu crée la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, au tout début de la création, Dieu crée la terre, c'est dans les ténèbres, il dit « Il crée la lumière. » Puis, il y a une séparation déjà, au tout début, entre la lumière et les ténèbres. Donc, cette idée-là de séparation est là dans toute la parole de Dieu. Puis, dans cette lettre, plus quelques milliers d'années plus tard, que Paul écrit aux gens d'Éphèse, il leur mentionne de marcher comme des enfants de lumière. C'est ce qu'on va regarder ce matin, cette idée-là d'avoir une marche lumineuse, comme le titre de mon message, de marcher comme des enfants de lumière. On va regarder ça sous les aspects suivants. Dans le texte, on a un autrefois puis un maintenant. Donc, on va s'attarder un petit peu à cet autrefois et maintenant. On va parler d'une marche fructueuse. On va parler des œuvres infructueuses, donc l'opposé. On va parler d'une lumière qui réveille. Puis, on va voir des applications pour nous très bientôt en 2025. Donc, ça va vite. Donc, on va, avant d'aller plus loin, on va prier pour remettre le temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, on est reconnaissant d'être réunis ensemble. Merci parce qu'on peut se le faire à chaque dimanche. On peut se rappeler de la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que tu nous laisses ta parole, puis que tu veux nous montrer des choses. Seigneur, tu veux nous perfectionner. Tu veux qu'on grandisse dans la connaissance de ta personne. C'est notre désir ce matin. Sois avec nous. Conduis nos cœurs. Conduis-moi également. Permets que ce temps de passer dans la parole soit précieux, soit utile pour chacune de nos vies. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, premier point, autrefois et maintenant. Je vais relire le verset 8, ça dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Donc, autrefois et maintenant. Il y a un avant dans la vie chrétienne, il y a un avant, puis il y a un après, il y a un autrefois, puis il y a un maintenant. Dans la lettre même que Paul écrit aux Éphésiens, il y a cette idée-là d'une vie passée, puis un changement qui est arrivé. Donc, dans quel, si je vous demande un chapitre en particulier qui fait cette mention-là de la vie avant la conversion, dans le livre d'Éphésiens, il y a 6 chapitres, vous avez une chance sur 6 en fait. Au chapitre 2, c'est mentionné cette idée-là, cette autrefois et ce maintenant. Donc, au chapitre 2, je vais sortir simplement quelques versets. Ça dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Donc, cette idée-là, « Autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Là, je réalise que c'est un petit peu sombre, donc... Sur mon écran, c'est très bien. Donc, désolé de la situation. Donc, on était morts par nos offenses et nos péchés. Nous étions autrefois, au verset 3 du chapitre 2, des enfants de colère. Vous étiez autrefois païens dans la chair, au verset 11, incirconcis. Il y a plusieurs termes qui sont mentionnés. Donc, autrefois, ça n'allait pas bien. Mort, enfants de colère, incirconcis, païens, plusieurs titres qui ne sont pas du tout positifs, qui ne sont pas du tout, on s'est rappelé dans le temps d'adoration ce matin qu'on était ennemis, on n'était pas du bon côté par notre état qu'on était. Puis il y a maintenant, il s'est passé quelque chose par la grâce de Dieu. Dieu était riche en miséricorde par la grâce. Puis au verset 13, ça dit « Vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Donc, maintenant, on a été rapprochés, on était loin, on a été rapprochés. Au verset 19, on est citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, il y a un gros changement qui s'est opéré dans notre vie. Ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu, un grand, grand changement. On était morts, on était dans nos péchés, puis maintenant, c'est un beau privilège, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On a été rapprochés, on a une position extraordinaire. Par la grâce de Dieu qui a été faite pour nous. Puis, tu sais, faut évidemment, on se réjouit de tout ça, mais on se rappelle qu'on était mort parce qu'on était dans nos péchés, dans nos offenses, puis dans une manière de vivre qui déplaisait à Dieu. Donc, évidemment, on ne peut pas rester dans cet état-là. Il doit se passer, il doit avoir, ici, un changement dans ma position. Bien, évidemment, il doit y avoir un changement dans la pratique. Puis c'est ce qu'on regarde ce matin. Puis Paul a rappelé qu'autrefois, comment il était, puis maintenant, vous êtes dans un autre état. Puis il amène cette idée-là de ténèbres et de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Tantôt, j'ai mentionné dans la parole de Dieu, si ce thème-là revenait souvent, de ténèbres et lumière. Est-ce que dans les épîtres de Paul, ça revient souvent également? Passé, oui. Oui, OK. Oui, ça revient énormément aussi dans presque toutes les épîtres que Paul, il écrit des épîtres individuelles comme à Timothée ou à Tite, mais s'il écrit un épître, une lettre à une église, il va constamment revenir avec cette idée-là. J'en ai mis deux ici, mais il y en a plein d'autres. Romains 13, verset 12, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous pardon, des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, se dépouiller des œuvres des ténèbres, se revêtir des armes de la lumière. 1 Thessaloniciens 5, les versets 4 à 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, vous êtes du côté de la lumière. Il ramène constamment cette idée-là. Puis pourquoi vous pensez que Paul le fait? C'est parce que c'est le mandat que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné ce mandat-là dans Actes 26, les versets 17 à 18. Paul, il donne son témoignage d'une certaine façon ici, puis il mentionne que Dieu lui parle, puis il lui dit « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens, » donc il parle à Paul, « et vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » De la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Donc, c'est le mandat que Paul a eu de faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Puis il ramène constamment cette idée-là, constamment cette idée-là. Puis là, il parle aux gens d'Éphèse, puis il leur dit, vous avez changé de côté, vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans les lumières. C'était mon mandat de vous faire passer là, puis marcher en conséquence, ayez une vie qui est conséquente à la lumière dans laquelle que vous êtes. Il faut se garder en tête que la vie des gens d'Éphèse à cette époque-là, c'était pas une vie... les gens, il y avait des différentes tentations, différents péchés. Il y avait le temple de la Diane des Éphésiens, avec des cultes aux idoles, la prostitution, plein de choses qu'il y avait des enjeux, puis ça, c'était une façon de vivre pour ces gens-là. Puis là, ils ont connu le Seigneur, puis là, c'est comment qu'on se comporte avec ces gens qui se comportent, cette culture-là qui nous mentionne une façon de vivre qui est tellement inconforme à la parole de Dieu. Puis l'encouragement que Paul dit, vous êtes maintenant du bord de la lumière. Donc, il y a un choix qui doit être fait. Au niveau ténèbres, lumière, je cite ici John MacArthur, il mentionne, quand on parle de ténèbres et de lumière, l'obscurité, en général, ça fait référence intellectuellement, au niveau mental, à l'ignorance. Donc, les gens qui sont dans l'ignorance, ignorance des choses de Dieu, ignorance de leur état de pécheur, donc ils sont dans les ténèbres, puis moralement au mal. Donc, ceux qui décident de mal se conduire, évidemment, sont dans les ténèbres. Puis en parallèle, la lumière intellectuellement, la lumière fait référence à la vérité, à la connaissance moralement, la lumière fait référence à la sainteté, le bien, le contraire du mal. Donc, vivre dans la lumière signifie vivre dans la vérité et dans la sainteté. Donc, l'encouragement, c'est de vivre dans la vérité et dans la sainteté. C'est l'encouragement que Paul veut donner. Puis évidemment, ça, c'est possible dans le Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il s'est passé quelque chose, on s'est rappelé ce matin, la personne est l'œuvre du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, encore une fois, est-ce qu'on entend parler du Seigneur Jésus, est-ce qu'on entend parler de lumière à l'occasion dans les évangiles? Très souvent, le Seigneur, on va le voir énormément. Je cite quelques versets dans l'évangile de Jean. Jean 1, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Donc, le Seigneur Jésus était la véritable lumière. Au chapitre 8, le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 12, verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc, il y a cette idée-là Je cite 1 Pierre aussi 2, verset 9. Au contraire, vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous fait passer, changer d'équipe, passer d'un côté, côté sombre à la lumière. Donc, on a cette merveilleuse grâce, merveilleux privilège d'être dans la lumière. On est lumière dans le Seigneur. Donc, évidemment, on a cet état-là. Qu'est-ce qui devrait changer? Bien, évidemment, on devrait avoir une façon de vivre qui est conséquente. Ça nous amène à un deuxième point qui est une marche fructueuse. Je vais relire la fin du verset 8. Ça dit « marcher comme des enfants de lumière ». Donc, l'idée de marcher, quand on parle de marcher, c'est pas nécessairement moi qui vais marcher à mon auto tantôt. Évidemment, c'est dans ma conduite, dans la façon de vivre. Constamment, l'Épître aux Éphésiens est divisée en deux parties. Il y a une partie plus théorique ou théologique, puis une partie plus pratique. Là, on est dans la partie pratique. Puis constamment, Paul rappelle le besoin, la nécessité d'avoir une marche qui est conforme à l'état dans lequel les Éphésiens sont, puis évidemment, nous également, la conforme à qu'est-ce qu'on est. Éphésiens 4, le verset 1, dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc, une marche qui est digne de la vocation ou l'état que vous êtes. Verset 17, toujours dans Éphésiens 4, voici ce que je vous dis, je vous déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, des païens qui marchent dans les ténèbres ne devaient plus marcher comme eux. Éphésiens 5, le verset 2, ça dit de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Donc, constamment, cette idée d'avoir une marche chrétienne, une marche qui est conforme à ce que le Seigneur a donné. Puis ici, il utilise l'image de lumière et de ténèbres, donc de marcher comme des enfants de lumière. Donc, il y a deux choses à considérer dans l'idée de marcher comme des enfants de lumière. Premièrement, c'est de marcher comme des enfants. Qu'est-ce que ça fait un enfant? Vous avez vu Arnaud tout à l'heure, mon petit garçon. Les enfants, qu'est-ce que ça fait par rapport à leurs parents? Ça les imite. Ça veut faire la même chose. Ça veut copier. On a l'idée de quelqu'un... Un enfant qui veut se raser, un garçon qui veut se raser comme son père. On veut, Éphésiens 5, le verset 1, ça dit, il faut devenir les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, c'est Seigneur Jésus la lumière. Nous, on veut marcher comme des enfants de lumière. Donc, on a cette idée de vouloir imiter les caractéristiques, les traits de Dieu. Ça devrait influencer notre conduite. Ça devrait être notre objectif de marcher comme des enfants de lumière. Puis ça, c'est toujours en opposition avec les ténèbres. Dans Éphésiens 5, le verset 6, ça parle que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 3, qu'on était par nature des enfants de colère. Donc, on était des enfants du mauvais côté. Maintenant, on est du bon côté, des enfants de lumière, des enfants bien-aimés, des enfants de Dieu. Donc, on doit avoir une marche qui est conforme à la position dans laquelle Dieu nous a placés. C'est évident. Donc, premier aspect de l'idée d'être un imitateur de Dieu, notre Père, dans l'idée de marcher comme des enfants de lumière également, dans la conduite, évidemment. Ça fait pas si longtemps que ça, mais regarde, on était à Sainte-Marie, en fait, on était chez mes parents, puis on partait en fin de journée. Puis là, j'allais prendre l'autoroute, puis là, je dis, il commence à faire noir déjà, avec le changement de saison. Puis Mégane me dit, bien, comment qu'on... S'il fait noir, comment qu'on va faire pour se rendre à la maison s'il fait noir? Bien, disons, on va allumer une lumière. Ça va bien aller, puis je vais pouvoir m'orienter. Puis spirituellement, c'est la même chose. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils marchent dans les ténèbres, ils font ce qui leur semble bon. Ils n'ont pas d'idée de comment se comporter. Ils n'ont pas de référence. La voix, Proverbe 4, le verset 19, ça dit « La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Au contraire, si on marche dans la lumière, on a une référence. On sait où est-ce qu'on s'en va. On sait comment Dieu veut qu'on se comporte. On a une lumière sur notre route. Puis on peut avancer, voir les dangers, voir les choses qui peuvent nous, euh, nous faire trébucher, puis les éviter, donc en s'éclairant de la parole de Dieu, en s'éclairant de cette lumière qui vient en nous, bien, on peut avoir une marche qui est différente de ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, on a marché comme des enfants de lumière. Je vais relire le verset 9. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière, si je veux juste mentionner le fruit de quelque chose, ça vous fait penser à quoi dans la parole de Dieu? Le fruit de l'esprit, oui. Dans Galates 5, versets 22-23, fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas exactement les mêmes mots, à part le mot bonté qui revient. Donc, évidemment, il y a une idée qu'on... On reconnaît un arbre à ses fruits, il y a cette idée-là qui est là. Puis ici, on a le mot « bonté » qui revient dans notre texte, mais les deux autres mots sont différents. Donc, ce n'est pas nécessairement la même chose que le fruit de l'esprit, mais c'est une marche qui est conforme à la lumière. Puis ici, ce qu'il mentionne, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a un commentateur quand je préparais le texte, qui mentionnait ça, qui faisait un très bon résumé, je trouvais. La bonté, c'est un comportement qui profite aux autres avant soi. Donc, c'est une idée d'agir d'une façon qui n'est pas égoïste, mais de penser aux autres altruistes. La justice, c'est de se conformer aux normes justes de Dieu. Donc, de se conformer aux choses qui sont justes selon Dieu, c'est d'avoir une marche qui plaît à Dieu. Puis la vérité, c'est une intégrité en toutes choses, avoir rien à cacher. C'est simple, mais il y a quand même beaucoup de stock. Puis c'est un gros défi. C'est facile de dire, ah ben pour moi, ça a été facile à lire, mais il y a quand même énormément. Puis dès qu'on parle de sanctification, même moi, en tant que prédicateur, on ne se sent jamais à la hauteur, mais c'est un objectif que Dieu veut pour nous, puis on doit viser d'être, de produire le fruit de la lumière qui consiste à bonté, justice et vérité, qui va jurer avec les ténèbres, avec ce que le monde a à offrir. Donc, d'un côté, on a cette idée-là de marcher dans les... avoir une marche fructueuse, de marcher dans le fruit de la lumière. L'opposé, c'est la marche qui est infructueuse. Fructueuse, c'est qui produit des fruits. Infructueuse, c'est ça produit pas de fruits. Donc, je vais regarder les versets 10 et 11 maintenant. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Les œuvres infructueuses, premièrement, l'apôtre y encourage à examiner ce qui est agréable au Seigneur. Être agréable au Seigneur, le français courant disait « Forcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Dans le fond, c'est chercher ce qui fait plaisir à Dieu, chercher ce qui lui fait plaisir. Qu'est-ce qui, ça devrait être un objectif en tant qu'enfant de lumière, de dire qu'est-ce qui va plaire, qui va être agréable, qu'est-ce que je dois faire, quel comportement que je vais avoir qui va plaire à Dieu. Je pourrais citer plein de choses, mais évidemment, ça devrait être notre recherche personnelle. Notre but, c'est de dire qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? Est-ce que mes projets, mon action dans le monde dans lequel je me trouve, est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de faire plaisir à Dieu ou pas? C'est une question qu'on doit se poser. Donc, on doit s'efforcer de chercher d'être agréable, de plaire à Dieu. Puis, si on fait ça, évidemment, notre réaction, ça va être de ne point prendre part aux œuvres infructueuses et ténèbres. De point prendre part, c'est de ne pas participer, de pas. Il y a des choses que les gens du monde font qu'en tant qu'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, on ne fera pas. On va volontairement avoir des... Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce qu'on est des enfants de lumière. On ne doit pas participer à ces choses-là. On ne doit pas être des participants. Pourquoi? Parce que c'est des œuvres qui sont infructueuses. C'est des œuvres qui ne produiront pas de fruits, qui ne produiront pas le fruit de la lumière. Quand je réfléchissais au texte, évidemment, il a tombé une bonne quantité de neige, on ne parle plus de jardin à ce temps-ci de l'année. On a une maison depuis quelques étés, puis là, ça fait deux étés qu'on fait des jardins, des tout petits jardins, pas à la hauteur de ce que mes parents font. Mais la première année qu'on l'a fait, on avait planté différents plants, puis on avait planté dans le jardin un plat de tomates. Puis, tu sais, moi, j'ai l'expérience de... Cette année, ça a été moins bon, mais l'expérience de chez mes parents que
Les plants de tomates que mes parents font, ils font, c'est pas des gros plants, puis ils font beaucoup de tomates. Ma mère est bonne pour ça. Puis, tu sais, c'était ma référence. Donc, on dit, on va mettre un plant, ce sera un petit plant, puis il va y avoir beaucoup de tomates. Je dois tout le temps faire ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le plant n'a pas fait du tout de tomates, mais il est devenu gigantesque. Il était en bonne santé. C'était un gros, gros plant qui prenait tout le jardin. Puis, il était gros, mais il ne faisait pas de tomates. Fait qu'il, ça ne servait à rien. En fait, on l'arrosait, puis il servait, c'était une perte de temps. C'était du gaspillage. Il gaspillait de l'espace. Ce plant-là, il prenait. Il était là, mais il ne nous servait strictement à rien. Il ne produisait pas de fruits. Puis évidemment, en tant qu'enfant de lumière, ce n'est pas ce qu'on veut pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est cet arbre-là? Je vais vous mentionner ce que j'ai fait. J'ai marqué, je fais une recherche dans Google pour avoir des images. J'ai marqué arbre fruitier sans fruits. Là. Puis il y a ça qui est tombé. Puis la question que je vous demande, c'est est-ce que vous savez c'est quoi cet arbre-là? Moi non plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un pommier. Je ne sais pas si c'est un. J'ai aucune idée parce que je ne vois pas les fruits. Quand la parole de Dieu dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est que s'il n'y a pas de fruits qui sont visibles, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas si c'est un pommier, on ne sait pas si c'est un. C'est des poires, on n'a aucune idée de savoir. Donc, ça nous prend les fruits pour le reconnaître. C'est quand même intéressant de cette idée-là. Si on ne produit pas de fruits, les gens, ils ne pourront pas reconnaître qu'on est des enfants de lumière. S'il n'y a pas des fruits de lumière dans notre vie, les gens, ils vont nous voir comme n'importe qui à travers les autres. Ils ne seront pas capables de voir la différence qu'on a. Donc, on a à produire des fruits. Donc, si on prend part aux œuvres infructueuses et ténèbres, bien, on ne produira pas de fruits, puis les gens ne verront pas qu'on est un arbre de lumière, qu'on est des enfants de lumière. Donc, c'est super important de, dans ma vie, est-ce que je produis des fruits de lumière? Donc, est-ce que je prends part aux œuvres infructueuses et ténèbres, ou plutôt je les condamne? Les condamner, puis évidemment, l'idée, c'est pas nécessairement, tu sais, si on pense, moi, ma conviction, c'est étant donné qu'on a ténèbres, lumière, c'est un texte qui parle des chrétiens avec les incroyants. Donc, évidemment, notre façon de se comporter, l'idée de condamner, c'est évidemment vivant une vie de sainteté, c'est en ayant des paroles correctrices, mais remplies de l'Esprit du Seigneur. Le but, c'est pas de condamner, de critiquer puis de planter les gens. Ce n'est pas ça le but, mais c'est vraiment d'avoir une attitude qui jure avec qu'est-ce que les gens font dans le monde. 1 Pierre 4, les versets 3 à 4, ça nous dit « C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, du boire, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et vous calomnie. » Donc, les gens du monde devraient trouver bizarre qu'on ne fasse pas des choses qu'eux font. Puis c'est un peu l'idée là, de condamner ça, c'est de ne pas faire les choses que les gens font. Verset 12, ça dit « Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Donc l'idée d'être honteux, c'est de ne pas le mentionner, de ne pas le nommer, de ne pas se nourrir de ces choses-là. Je vais même revenir un petit peu en verset 4 du chapitre 5, vous pouvez le regarder dans vos Bibles, ça me dit qu'on n'entende ni paroles déshonorantes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Puis le verset 3, c'est le verset 3, je voulais dire, pardon, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il en convient des saints. Donc l'idée, c'est de même pas en parler, de vouloir les condamner, en sens même pas le côtoyer. S'il y a vraiment une idée de s'éloigner de ces choses-là. Mais c'est l'idée-là, l'idée que c'est honteux, ce n'est pas des choses qui devraient nous intéresser. Donc, on a une idée d'une marche fructueuse, malheureusement des œuvres infructueuses. En tant qu'enfant de lumière, on ne veut pas produire d'œuvres infructueuses. On veut être des lumières dans le monde, c'est ce que Seigneur Jésus nous mentionne. Ça nous mène à notre quatrième point, une lumière qui réveille. Je vais relire le verset 14. « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Ah, pardon, je voulais lire le verset 13 aussi. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifeste est lumière. Ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est une phrase un peu bizarre, un peu difficile à saisir, à comprendre. La version Darby, ce qui manifeste tout, c'est la lumière. Ça vous aide-tu? Hein? On voit. En fait, puis là, vous pourrez faire l'exercice chez vous ce soir, si vous voulez. Là, si vous allez d'une pièce sombre, puis vous introduisez dans la lumière dans la pièce sombre, bien, la pièce est plus sombre. Il s'est passé quelque chose, il y a une lumière qui est là. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas nécessairement ensemble. La lumière, elle éclaire, puis elle change l'état des choses. Donc, elle manifeste les choses, la lumière. Donc, c'est un peu l'idée de cette phrase-là, qui est un petit peu difficile, c'est que tout ce qui est manifeste est manifesté à la lumière. C'est-à-dire que quand la lumière est là, ça manifeste les choses qui ne sont pas correctes. Puis là, il mentionne le verset 14 que j'ai déjà dit. Il est dit, il va citer peut-être un chant, peut-être un texte dans Ésaïe, donc c'est pas clair dans les commentaires, mais ce qu'il va faire, c'est une invitation. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. C'est une invitation qui est lancée de se réveiller des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont encore dans les ténèbres, qui puissent considérer des vies de lumière, puis de voir dans les vies de lumière qu'ils voient autour de vous, d'autour d'eux, pardon, la présence de lumière qu'il y a autour d'eux, que ça devrait changer les choses. S'il n'y a pas de lumière, je ne saurais jamais que je suis sale. Si je vois de la lumière, je suis capable de me voir, dire là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, puis je dois le nettoyer. Puis c'est un peu l'idée d'être des lumières dans le monde, que les gens puissent, notre vie puisse être une invitation à se tourner vers celui qui peut les amener des ténèbres à la lumière, qui peut les nettoyer, qui peut les éclairer. Puis c'est vraiment, le but, c'est d'amener, évidemment, nous, on ne peut pas amener personne à la lumière sans l'œuvre de Christ. Donc, le but, c'est d'être des lumières, que les gens voient dans notre vie, qu'on produit des œuvres qui sont différentes, puis que ça l'oriente les gens vers le Seigneur Jésus qui peut, lui, peut les faire passer des ténèbres à son admirable lumière, comme on a vu dans 1 Pierre tout à l'heure. Donc, Christ éclaira, c'est lui qui est la solution. Puis notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est de marcher dans la lumière pour être, pour conduire les gens à Christ, pour conduire les gens à changer d'état puis passer à la lumière également. Donc, beaucoup de stock. On va regarder quelques applications. Puis c'est des applications qui sont très simples, qui sont évidentes dans le texte qu'on a pour nous en 2024, bientôt 2025. Puis c'est un résumé, c'est beaucoup un résumé de qu'est-ce qu'on a lu, qu'on a déjà vu ce matin. Premièrement, une chose qui est évidente à se rappeler, c'est que la lumière est différente des ténèbres. Donc, si on est des chrétiens, des enfants de Dieu, il faut s'attendre à être différent des gens autour de nous. Puis il faut accepter que c'est ça, il y a une différence qui devrait être là, qui devrait être évidente. 2 Corinthiens 6, le verset 14, ça dit « Ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger. » Puis il mentionne « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? » Ou « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Donc, il faut accepter qu'en tant qu'enfant de lumière, on ait une vie, une façon de vivre, des pensées, une réflexion qui est différente de ceux qui vivent dans les ténèbres. Il y a une différence. Donc, il faut accepter cette réalité-là. Il faut l'endosser d'une certaine façon. Deuxième application, c'est que la lumière, ça, si vous allez voir où est-ce que je m'en vais, la lumière n'a pas sa place dans les ténèbres. Ça veut dire que je ne peux pas, il y a des choses dans ma vie qu'en tant qu'enfant de lumière, je ne devrais pas faire. Il y a des lieux que je ne devrais pas aller. Il y a des actions que des gens dans les ténèbres vont faire que je ne devrais pas faire. Donc, évidemment, je dois... Puis s'il y a des choses, des endroits que je vais ou des choses que je fais qui déplaisent à Dieu, bien, évidemment, je suis pas à ma place. En tant qu'enfant de lumière, je ne devrais pas être en train de faire ces choses-là. Évidemment, c'est important de considérer ça. Fait que d'un côté, la lumière n'a pas sa place dans les ténèbres. Vous allez être d'accord avec moi. Puis d'un autre côté, la lumière a sa place parmi les ténèbres. Est-ce que je suis en train de me contredire, vous pensez? Peut-être. Mon père, il me défend. Non, non, tu ferais jamais ça. c'est vrai que la lumière a sa place. Je montre une image, le but, c'est pas de faire une publicité pour un partenaire. À mon travail, il y a une compagnie pour qui on travaille, qu'on vend des produits, qui nous, on fait des systèmes de contrôle pour des hôtes de cuisine commerciale, des hôtes de restaurant. Puis il y a une compagnie qu'on fait affaire qui est dans l'Ouest canadien, qui s'appelle Cypress Sales. Puis ce client-là, on lui vend des systèmes de contrôle qui, eux, vont revendre à des clients qui sont des colonies. Il y a différentes colonies là, dans l'Ouest, là, des différentes colonies. Puis tu sais, c'est sur des bases religieuses, puis tu sais, je ne connais pas tous les noms des colonies. Puis là, quand on a commencé à faire ces projets-là, on avait quelques projets, puis tu mets qu'on ait fait 5-6, mettons qu'on ait fait une douzaine, on va faire le tour. Là. Mais non, c'est qu'on, eux autres, là, il y a des centaines et des centaines de colonies là, dans l'Ouest, puis ils vendent des systèmes, on vend toujours pour le même système à ces colonies-là, puis ces gens-là se regroupent et vivent un peu à l'écart du monde. Puis ma réflexion, puis évidemment, je ne connais pas toutes les colonies, mon but, c'est pas de sûrement juger, mais en faisant ça, ils ne sont pas en train de vivre comme des lumières dans un monde de ténèbres. Ils sont en train de s'isoler pour... Puis d'un côté, de vouloir s'isoler, de vouloir se préserver, il y a une idée qui est intéressante, mais d'un côté, Seigneur nous demande d'être des lumières dans un monde de ténèbres. Donc, personnellement, je pense que le Seigneur ne nous retire pas du monde, mais nous envoie dans le monde, puis on a à être des lumières dans le monde, dans notre vie. Quatrième point, le mandat de Paul est encore valide. C'est quoi le mandat de Paul que j'ai mentionné déjà? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus avait demandé à Paul? Oui, de partager l'Évangile pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Donc, les gens autour de nous, ils ont le même besoin de passer des ténèbres à la lumière. Puis on a ce mandat-là d'être des témoins, des lumières autour de nous pour que les gens puissent voir qu'il y a une autre façon de vivre, que la bonne façon de vivre, qui est selon la lumière de la parole de Dieu, selon la lumière de l'Esprit qui descend sur nous. Donc, on a ce mandat-là, chacun d'entre nous. Rappelons-nous ces choses, on va avoir le temps des fêtes qui s'en vient, le temps dans les familles, des belles opportunités d'être des lumières, d'être des témoins. Donc, rappelons-nous ces choses. Une question qu'on doit se poser, chacun d'entre nous, c'est est-ce que je suis un bon reflet de la lumière? Est-ce que je suis une bonne lumière dans le monde dans lequel où je suis? Ou est-ce que Dieu me place aujourd'hui? Ça, c'est une lune. C'est la lune. Puis vous savez évidemment que la lune, c'est pas un astre lumineux. C'est pas la lune, elle ne dégage pas de lumière en elle-même. Qu'est-ce que la lune fait? Elle reflète la lumière. Elle reflète une lumière. Puis nous, on a à refléter la lumière. Puis la lune, des fois, je suis en ville, je le vois moins, mais quand on est à la cabane à sucre, on le voit quand la lune est grosse, et la nuit, c'est surprenamment clair. Puis des fois, la lune est un peu plus petite. Puis on ne voit pas grand-chose. Puis est-ce que dans ma vie, est-ce que je permets des choses qui entrent dans ma vie, qui viennent, qui font en sorte que, au lieu d'être une lune qui rayonne, une lumière qui rayonne autour de moi, bien, est-ce que je suis... J'en cache beaucoup, puis finalement, je ne reflète pas grand-chose de la lumière que je devrais refléter. Une réflexion, un commentaire que j'avais lu, si nous ne sommes pas différents dans nos pensées, nos attitudes, nos paroles et notre comportement de ceux qui ne connaissent pas Christ, nous n'avons aucun message à leur transmettre. Donc, si notre façon de vivre est pareille à ceux du monde, on n'a pas de message à annoncer. C'est, si on vit différemment, c'est là qu'on va pouvoir leur annoncer un message. Je vous laisse avec cette pensée-là, puis c'est l'objectif qu'on veut avoir chacun d'entre nous. C'est un texte que j'ai toujours aimé beaucoup dans Jean 5, le verset 35. Ça parle de Jean-Baptiste, c'est-à-dire, ça parle de Jean-Baptiste, puis Seigneur Jésus parle de Jean-Baptiste. Il dit, « Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Donc, soyons ces lampes-là qui brûlent et qui luit dans lorsque Dieu nous place pour que les gens puissent venir se réjouir à la lumière. Donc, que ce soit le désir pour chacun d'entre nous. Je vais terminer par un mot de prière. Notre Dieu, merci pour ce texte, Seigneur, un texte simple, mais qui nous donne un défi qui nous amène à vouloir marcher davantage en conformité à ta parole, à être d'avoir une marche qui est digne de la vocation dans laquelle on était placé. Merci Seigneur Dieu que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Quel privilège extraordinaire! On ne réalise pas la portée de ce que ça a, mais on veut marcher en conséquence, on veut marcher comme des enfants de lumière, on veut imiter ta personne, on veut imiter Seigneur Jésus dans nos vies. Seigneur, donne-nous d'être, d'éliminer ce qui nous empêche de briller, que notre petite lumière, elle éclaire comme ce chant pour enfants qu'on chante à l'occasion. Donc, Seigneur, aide-nous à être des lumières lorsque tu nous places. Merci pour ta parole, Seigneur. Je te prie de bénir chacune des personnes ici, d'être avec nous dans tout ce qu'on va faire durant cette journée, cette semaine également. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.